Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous pouvez nous écouter à Nîmes en DAB+ ou sur radioalliance.fr. Je suis le docteur Jacques Jean, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé en trésor ». Nous retrouvons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir la docteure Béatrice Avril, qui, je vous le rappelle, est spécialiste du sommeil, neurologue, un chef de service de l'unité de troubles du sommeil et d'acupuncture au CHU de Nîmes, qui fait partie du pôle AMI, A-M-I-E, activité médicale guidée par imagerie et exploration fonctionnelle. Nous allons évoquer aujourd'hui le service qu'elle dirige. Bonjour à vous, docteur Avril, et merci d'être de nouveau avec nous une nouvelle fois.
Bonjour.
Alors, les maladies du sommeil regroupent un large éventail de conditions qui perturbent la qualité de vie et elles doivent être prises en charge et bien évidemment avant être explorées, nous l'avons dit, dans les émissions qui ont précédé celle-ci. C'est le but de la mission de votre service. Si vous le voulez bien, évoquons-les. Quelle est l'histoire de ce service et depuis combien de temps en êtes-vous le patron, comme on dit à l'hôpital ?
Alors, l'histoire du service, moi, je suis arrivée en 2010 au CHU de Nîmes et je voulais faire du sommeil. Je venais de Montpellier avant d'Espagne, je
vous ai dit. C'est un beau projet, ça.
Ouais. Et du coup, je suis allée voir le docteur Patrice Rey, le chef de la pneumologie, mm-hmm. et le professeur Lallemand, ORL, et j'ai dit, ce serait... Et je travaillais un petit peu, j'avais quelques vacations en EEG.
EEG, c'est
électroencéphalogramme, ouais. avec le docteur Dominique Pratt.
Dominique Pratt.
Qui, c'est elle qui a dit, allez, on y va. Et donc, on a dit, on fait un service à trois. ORL, le pneumo et Dominique Pratt avec l'EEG. Donc, ça a démarré comme ça. Et donc, ça a démarré avec des consultations.
Mais vous avez combien de consultations ? Une demi-journée par semaine ?
Non, trois demi-journées. Mais j'étais toute seule à l'époque.
Oui, j'étais seule, oui.
Et donc, on a démarré des consultations et des enregistrements ambulatoires. Ça veut dire que les patients venaient à l'hôpital, on les équipait avec l'appareil et ils dormaient à la maison. Donc, petit à petit, ça a pris de l'ampleur et ça a plu. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une ORL. Et le docteur Caroline Alovisetti, qui mmh. ORL s'occupe de tout ce qui est nez, ronflement en ORL.
Donc elle venait aussi une journée ou une demi-journée,
toujours
ce qu'on appelait vacation.
Oui,
quoi,
hein. qui venait chez
Votre
nous.
Statut, vous, c'est praticien hospitalier.
Oui, praticien hospitalier.
Voilà, mais praticien hospitalier, ce sont des praticiens qui ont un contrat avec l'hôpital et qui sont à mi-temps ou à un tantième de temps, mais qui peuvent être à plein temps, qui sont salariés de l'hôpital.
Tout à fait.
Ce qu'on appelle les PHPU, ce sont des praticiens qui sont en fait à mi-temps à l'hôpital et à mm-hmm. mi-temps à l'université, qui ont un rôle d'enseignement. Bien souvent, vous devez faire l'enseignement parce que c'est transversal.
Bien sûr, un petit peu.
C'est pour un peu expliquer aux auditeurs parce que vous...
Donc, du coup, on a continué. On a eu un praticien en pneumologie qui, malheureusement, n'a pas pu rester. Donc, on a continué l'activité. Et au bout de quelques années, on a réussi à ouvrir le service des troubles du sommeil et acupuncture au pavillon 4. C'est l'ancienne psychiatrie. Mm-hmm. On a eu 4 lits.
Oui, c'est bien.
Et on a agrandi l'équipe jusqu'à 2022 où on a eu 6 lits. Donc, on a agrandi 2 lits supplémentaires.
Et 6 lits, c'est important.
Donc,
Pour mémoire, parce que moi, je connaissais le service d'acupuncture avec Jean Bossy, que vous avez entendu parler, vous l'avez entendu parler. Donc, Dominique Prang a pris la suite. Le service d'acupuncture, lui, a disparu parce que... Et c'est fondu avec le service...
En fait, moi, quand je suis arrivée, on était en ce qu'on appelle les EFSN, le service EFSN, dirigé par Dominique Prang. Le docteur Dominique Prat, c'était exploration fonctionnelle du système nerveux.
Voilà.
Donc, il y avait l'EEG, électroencéphalogramme, l'EMG, électromyogramme, l'acupuncture, et moi, j'ai démarré avec le sommeil. Donc, ça a mis un peu le bazar, hein, forcément, dans un service.
Une évolution, c'est pas un bazar, c'est une évolution.
Et on était à l'étroit, à la fin.
Voilà, pourquoi le sommeil ? Parce que l'électroencéphalogramme est fondamental pour le sommeil. C'est pour
tout
ça que
fait.
Vous êtes, permettez-moi cette expression, vous êtes greffé dans ce service parce qu'il y avait le matériel pour faire des EEG.
Oui,
donc c'était
parfait. Et du coup, à un moment donné, on était à l'étroit. Donc, le sommeil arrive, un autre praticien, des enregistrements. Donc, il a fallu trouver une place. Et on a trouvé cette place au pavillon 4. Et il y avait encore de la place pour un autre bout de service. Et l'acupuncture, ça s'est fait comme ça. Et c'est génial parce que du coup, nous aussi, on peut travailler avec les acupuncteurs. Et donc, il y a... Bon, je crois qu'il va venir, donc
oui,
je laisserai...
Oui, il y a des émissions prévues avec
ouais,
lui.
Le docteur Fréard. Et ça fait un pont, c'est intéressant. Et on a créé ce service de sommeil et acupuncture.
Bon, mais c'est très bien. Et donc, bon, c'est vous qui êtes la responsable.
Je suis la responsable. Et à ce jour, on est 3 neurologues, donc moi-même. Donc, il y a le docteur Elisa Evangelista.
Vous êtes en plein temps.
Je suis à plein temps. Le docteur Evangelista qui est à 80%, est praticien hospitalier. Il y a le docteur Rassou qui est à temps plein aussi. On a le docteur Alovisetti qui est le ORL qui est à 40%.
Oui.
Chez nous. Et on a une médecin généraliste qui est à une demi-journée par semaine.
Bon, mais c'est bien. Et alors, quels sont les moyens techniques et matériels dont vous disposez dans ce service?
Donc, on a des appareils pour enregistrer en hospitalisation avec une caméra infrarouge, avec des électrodes au niveau de, qu'on met au niveau de la tête, au niveau des jambes, des ceintures pour voir le ventre, les thorax, les mouvements de ventre et thorax. On a la saturation en oxygène. On a une canule nasale et buccale pour voir comment on respire. Et on a des chambres individuelles très agréables avec, parce qu'il faut qu'on soit serein quand même pour dormir là-bas avec la salle de bain. Et donc, et on a une super équipe d'infirmières, 5 infirmières qui tournent jour et nuit et qui surveillent et qui ont presque toutes, sauf la dernière qui vient d'arriver, le diplôme de technicien de sommeil.
Ah, il y a un diplôme de technicien de sommeil. Les infirmiers peuvent passer un diplôme.
Un diplôme...
Il faut être infirmier.
Oui, il faut être infirmier. Donc, il y en a 3 qui l'ont. Une qui va le passer cette année et une autre qui vient d'arriver, qui viendra plus tard et qui sont hyper motivés, une très bonne équipe et qui surveillent les enregistrements de nuit, mais aussi de jour. Parce qu'on fait des tests la journée, des tests de vigilance et les tests de somnolence. Et bon, ça s'articule comme ça. Et après, on fait beaucoup de formations, bien évidemment, formations dans d'autres spécialités, par exemple les infirmières anesthésistes, les étudiants en médecine. Et on fait beaucoup de prévention primaire. Donc, un peu bouche à oreille. Donc, on va dans les écoles. C'est l'équipe d'infirmières qui va dans les écoles pour expliquer un petit peu ce qu'on a dit dans les précédentes émissions, les écrans, pourquoi on dort.
Vous sortez de l'hôpital.
Oui, donc on est allé au lycée Hemingway. Et donc, parce que je pense que c'est la base pour apprendre à bien dormir. C'est ces jeunes-là qu'il faut expliquer.
Oui, bien sûr, la prévention, il faut commencer
tôt. Oui, donc un service très dynamique et... qui est très plaisant de travailler.
Il semble y avoir une bonne ambiance.
Tout à fait.
Très bien. Et alors, vous donnez donc des cours, vous avez dit, à des étudiants, des infirmières, peut-être des kinés aussi, parce que c'est important, pas trop
Non. Et avant,
on fait un appel alors à l'école de kinés de
On est un peu occupés. Mais non, on fait... vous savez, maintenant, il y a beaucoup de cours en visio. Là, on reçoit des étudiants pour les unités, les UE qu'on appelle, de médecine de 3e, 4e année, on explique un petit peu les explorations fonctionnelles. Et pour les infirmières, pour les médecins généralistes aussi, on fait des formations pour d'autres spécialités. On essaye de...
Et au niveau diplôme, donc vous êtes neurologue, il y a des spécialistes, parce qu'il faut que ce soit des spécialités reconnues, on ne va pas faire de l'administration ordinale et de qualification, mais est-ce qu'il y a des diplômes universitaires pour les infirmières? Il y en a un, mais pour les médecins?
Le DU, il y a beaucoup, il y a des DU.
DU, c'est diplôme universitaire.
Universitaire et interuniversitaire.
Il se passe à Montpellier ou à Nîmes?
À Montpellier, Paris, il y en a plein, à Lyon, et des troubles du sommeil adultes, mais il y a aussi DU de l'enfant, troubles du sommeil enfant. Il y a aussi les DU d'insomnie, de TCC de l'insomnie, il y en a plein. Et après, il y a des formations de 40 heures, ça c'est les nouvelles formations qui valent ce qui valent, pour tout ce qui est apnée.
Ah, pour vous, 40 heures, c'est pas...
Pour moi, c'est pas suffisant.
Ah, voilà.
C'est pas suffisant, mais ça existe aussi.
Alors, quelles sont les prises en charge effectuées dans votre service? C'est-à-dire que quelqu'un a un trouble du sommeil, évidemment, on ne va pas peut-être tous les faire, mais qu'est-ce que vous faites?
Donc, normalement, on demande une ordonnance du médecin qui va expliquer...
Voilà, on va commencer. Pour vous consulter, quelqu'un a un détour de sommeil qui nous écoute, dit « Tiens, je voudrais aller voir le docteur Abril, comment je fais ?» On va voir son médecin traitant.
Donc, on va voir son
vous
médecin traitant.
Vous acceptez que s'il y a une lettre.
Oui, du médecin traitant, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de le pourquoi. C'est pas pareil une insomnie, qu'un apnée. C'est pas pareil avec traitement, sans traitement. C'est pas pareil celui qui somnole sur la route.
La pathologie de la plainte,
et des traitements. Donc nous, le lundi matin, on se réunit avec tous ces ordonnances et on va dire le degré d'urgence. Est-ce qu'il faut directement faire un enregistrement pour avancer ou pas, ou
le enregistrement du sommeil,
ou le revoir en consultation, et simplement. Et donc, voilà, on va trier un petit peu ces demandes.
Et après, vous contactez le patient ou la patiente qui prend rendez-vous, vous le recevez, et puis...
La prise en charge continue. Et par exemple, on a, depuis 2019, on a un programme d'éducation thérapeutique validé sur l'insomnie chronique, qui est génial et qui marche très bien, où les patients passent la journée avec nous. On leur explique qu'est-ce que c'est bien dormir, parce que chacun a sa vision de qu'est-ce que c'est, ce qui est bien pour eux, dormir ou pas. Et donc, on travaille, on fait des ateliers. Et donc, on va voir, on va driver. Est-ce qu'on le met dans le programme d'éducation? Est-ce qu'on fait une consulte? Est-ce qu'on fait un enregistrement? Est-ce qu'on fait des tests de somnolence, de vigilance? Donc, on va, en fonction de ce bond du médecin traitant, on va pouvoir répondre à la demande, j'espère.
Alors, juste une explication pour l'éducation thérapeutique du patient. L'éducation thérapeutique du patient est une vraie thérapie. Ce n'est pas une information. Là, nous, à l'émission, on fait de l'information, de la sensibilisation. Ce n'est pas du tout ça. C'est l'éducation thérapeutique du patient. En principe, il y a un professionnel de santé, qui peut être médecin, infirmier, psychologue ou autre, qui est formé dans la spécialité ici, le sommeil. Mais ça peut être pour le diabète, ça peut être... Et un patient expert. C'est-à-dire que c'est un patient qui apporte son expertise de la pathologie. Et donc, en principe, pour simplifier, c'est un couple... J'ai été formé, je suis un praticien en éducation thérapeutique, donc je connais un peu. Donc c'est pour vous éclairer, parce que c'est peu connu, parce que ça peut se faire qu'en institution, en libéral, en ville, c'est difficile à faire, c'est très difficile. Mais donc on a un professionnel de santé qui est spécialisé dans le domaine, et puis un patient expert, et le couple va faire une éducation thérapeutique, c'est-à-dire prendre la gestion de la pathologie, mais avec un vécu d'un patient. Ça, c'est quand même très, 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 très important. Mais je vous propose à présent une petite trêve musicale avec une musique dite zen pour bien dormir. Vous écoutez Votre Santé un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui une médecin spécialiste du sommeil, le docteur Béatrice Abril, chef de service de l'unité des troubles du sommeil, acupuncture, CHU de Nîmes, et qui nous parle justement de l'organisation de ce service. Ma question à présent est si un ou une patiente a besoin de vous consulter, comment fait-il ? Alors, on l'a abordé. Quelle est la conduite à tenir pour être explorée, comme on dit, et pris en charge par votre service ? Donc, pour résumer, la personne a des problèmes de trouble du sommeil, quel qu'il soit. Va voir d'abord son médecin généraliste, qui la connaît. Et lui fait... Mais ça peut être un médecin spécialiste aussi.
Ah, tout à fait, tout à fait. Ça peut être un médecin qui va expliquer la raison.
Pas la peine un médecein en rapport avec le sommeil. Ça peut être un chirurgien.
Oui, tout à fait,
Qui est apte à faire un courrier en disant, voilà ma patiente. Ça peut être un problème récurrent ou qui est une plainte lors d'une intervention.
Oui, tout à
fait. En disant, mais écoutez, docteur, je dors mal, vous pouvez pas me donner quelque chose la nuit. Ça souvent, quand on faisait visite avec chirurgie, j'ai travaillé en chirurgie, je dors mal, vous voulez quelque chose pour la nuit? Écoutez, je vais vous faire un courrier, et donc ça peut être un courrier. Donc vous avez expliqué qu'il y a un staff le lundi où vous récupérez tous ces courriers. Vous les gérez suivant l'urgence et suivant les disponibilités, etc. Et puis après, vous prenez en charge. Donc ça, c'est... Et puis après, vous nous avez expliqué l'éducation thérapeutique du patient, tout ça, etc. Quand il y a besoin d'un traitement, comment ça se passe ? Il y a des consultations spécifiques ou vous avez des consultations ?
Après, le suivi va être fait par le médecin qui vous a vu en consultation.
Le patient qui rentre, un médecin, il est sous la responsabilité du médecin pour qu'il y ait une continuité des soins.
Oui, tout à fait. Et donc, le médecin va prendre la suite et va mettre en route un traitement, que ce soit pour les amnés, pour les impatiences, ou va l'adresser en ORL parce qu'on estime que c'est plus l'ORL pour un avis. Donc, après, il est pris en charge.
Et donc, il y a un médecin, appelons référent.
Oui,
ça
ne
veut rien
fait.
Dire et ça veut tout dire parce qu'il y a eu des bébés, c'est comme médecin traitant. Mais référent dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'un patient est attaché à un médecin, un médecin a sous sa responsabilité un patient pour que ça soit personnalisé.
Tout à fait.
Et puis suivant les demandes, après, il y a une orientation, vous passez entre vous les patients. Vous avez d'autres staff, je pense, où il y a une analyse, une
on
de
l'évolution. On discute des dossiers, ou on demande un avis, ou... Oui, on discute des dossiers un peu qui nous posent problème ou parce qu'on veut faire d'autres explorations. Oui, il y a un vrai travail d'équipe.
Donc, le patient, à la limite, vient ou en consultation et repart ce qu'on appelle l'ambulatoire ou est hospitalisé puisque vous avez six lits. Et puis, sort avec un diagnostic et un traitement. Et après, il y a un suivi. Comment ça se passe ? Vous vous mettez en relation avec le médecin prescripteur et le médecin traitant, par un courrier, je suppose.
Donc, après, il y a un suivi, plus ou moins une fréquence différente en fonction de la pathologie. Par exemple, si c'est un patient qui a des apnées et qui met très bien l'appareil, la première ordonnance est à 4 mois. Donc, on va le voir à 4 mois et après, une fois par an.
D'accord.
Si tout va bien.
Et le renouvellement d'ordonnance, c'est le médecin ?
C'est une fois par an, c'est nous.
Ah,
c'est le médecin. Et vous savez qu'on a des sites sécurisés du prestataire de service où on voit toutes les données. Par contre, si...
Expliquez-nous ça.
Donc, par exemple, quand on met un appareil pour les apnées, on contacte un prestataire de service. Idéalement, on fait tourner plusieurs et qui va venir chez vous, va vous mettre l'appareil, va avoir le masque qui vous convient. Et du coup, nous ouvre les droits sur un site pour que nous, on accède à vos dossiers.
C'est enregistré, c'est-à-dire que quand on a un appareil d'apnée, automatiquement, c'est enregistré et ces renseignements sont hébergés par le prestataire de service.
Ouais.
Et comme vous êtes prescripteur et spécialiste et médecin, vous avez un droit d'accès à ces données médicales.
Oui.
C'est important, ça, pour le secret médical, pour tout ça.
C'est très important. L'objectif, ce n'est pas... fliquer, on va dire ça comme ça.
L'objectif,
c'est que l'appareil, on arrive à le mettre, qu'il n'y ait pas de fuite, que les apnées sont corrigées, qu'il n'y ait pas d'événement, que le traitement vous apporte un bénéfice. Et du coup, on a toutes les ordonnances, c'est très bien fait maintenant sur le site. Donc la première ordonnance est à 4 mois, donc on revoit le patient à 4 mois. Et après, l'ordonnance est une fois par an.
D'accord. Et donc, le patient est en relation avec le prestataire de service
Les problèmes techniques.
Tout ça, et il est suivi par vous. Est-ce que c'est pris par la sécurité sociale ? Est-ce qu'il y a c'est remboursé ? Il y a une prise en charge ?
C'est remboursé par la sécurité sociale, une partie par la sécurité sociale, une partie par la mutuelle.
D'accord.
Sauf les ALD où c'est 100%.
D'accord, donc parce que si on a une pathologie grave du sommeil, il y a des ALD, c'est...
C'est un peu flou ça, parce qu'on peut le mettre sur un infarctus, sur un diabète,
voilà,
un diabète mal équilibré.
C'est que le trouble du sommeil peut être rattaché
associé
à une pathologie
qui est
psychiatrique, par exemple.
Pas tant que... Non, psychiatrie,
pas,
non.
Pas trop, non.
Non, non.
Mais sur une pathologie cancéreuse, pas trop.
Pas trop, non. C'est plus le diabète.
Le diabète,
oui. Ouais.
Mais si jamais vous n'êtes pas diabétique, vous avez des troubles de...
Bah, ça sera pris en charge par la
mutuelle.
Ouais.
Bon, donc ça, c'est un détail.
Ouais.
Enfin, c'est un détail,
ouais.
Un détail administratif. Ce n'est pas un détail financier, mais c'est un détail administratif. Quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est important, parce
ouais.
qu'il faut, il faut se soigner parce qu'on est pris en charge. Quoi,
ah, hein. Oui, il faut se soigner.
Et puis, si l'appareil tombe malade, si l'appareil tombe en panne, c'est le prestataire de service qui le suit, etc.
Oui.
Donc, et ça se passe bien.
Ah, ça se passe très bien.
Moi, c'était le début que j'étais. J'ai vu les débuts, donc ça se passait plus ou moins bien. Mais il y a longtemps, donc je pense que maintenant, ça doit être...
Ça se passe très bien. Voilà, après, il y a plein de prestataires.
Oui, après, chacun choisit. Ça, c'est
chacun...
normal.
Et il faut qu'il y ait que... On voit le prestataire pour que le travail soit fluide.
Ça se passe bien. Donc, vous avez un suivi. Et donc, le patient, vous le suivez, c'est-à-dire qu'il a une relation entre sa vie de pathologie du sommeil et votre service.
Ah, bien évidemment, il est suivi.
Ça, c'est important, parce que c'est pas simplement un flash de consultation.
Ah oui, oui.
C'est qu'il y a un suivi, c'est important, parce que c'est des maladies chroniques.
Ah, donc, c'est essentiel.
Les patients qui ont... Actuellement, c'est un peu ce que se plaignent les patients, parce que je suis aussi un fournisseur de besoins, j'aime bien ce terme. Les patients disent, mais on est un peu dans le vide. C'est pas votre cas, hein, vous allez l'expliquer. Mais c'est pour vous expliquer ma démarche et mon propos. C'est vrai que quand j'ai commencé médecine, c'était des flashs de service, c'est-à-dire qu'on demandait un avis.
Ouais.
Puis après, hop, c'est-à-dire que maintenant, parce que les maladies chroniques n'avaient pas le même statut qu'actuellement.
Ouais. D'accord.
Et moi, en tant qu'algologue, j'ai vu émerger vraiment la prise en charge des maladies chroniques. C'est pour ça que l'éducation thérapeutique m'a passionné, parce qu'en algologie, j'ai fait des travaux, enfin, je veux dire, c'est essentiel. Et donc, les gens ont une continuité. Ça, c'est important, parce que comme ils ont une maladie chronique, ils sont accompagnés. Hein. Donc, il faut le dire.
Oui, il faut le dire et il faut comprendre que faire un enregistrement de sommeil, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas le pourquoi on le fait... Et qu'est-ce qu'on fait de cet enregistrement de sommeil? Parce qu'un enregistrement de sommeil, ça s'interprète.
Mmh.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... on ne fait pas de miracle en une consultation.
Non,
il y a un suivi. C'est une maladie. Les apnées, c'est des maladies. L'insomnie, c'est une maladie. Comme un diabète, comme une hypertension.
Donc, il y a un suivi. Je veux vraiment insister pour les patients, parce que c'est important. Il y a une prise en charge, ce qu'on appelle globale actuellement.
Bien évidemment.
Alors, j'aimerais rapidement, parce qu'on ne va pas faire un cours de pharmacologie, quand même, il y a des médicaments, des troubles... Des maladies du sommeil. Ce qu'on appelle, avant, on appelait ça les somnifères. Mais pouvez-vous nous en dire un mot,
Alors, pour l'insomnie, les troubles de la continuité du sommeil, il y a, je dirais, 4 catégories. On a les médicaments un peu plus légers, ça va être l'homéopathie, la phyto, la mélatonine, qui rentrent un peu dans cette catégorie. Après, on a les hypnotiques. Et je peux dire les noms, Zolpidem, Zopiclone, c'est des hypnotiques qui sont connus, et qui sont utilisés, qui ponctuellement sont très bien. Moi, je n'aime pas diaboliser les médicaments, parfois on en a besoin.
Donc, ponctuellement,
c'est les inducteurs de sommeil. Après, en médecine du sommeil, on utilise beaucoup les antidépresseurs. Les patients n'aiment pas les antidépresseurs.
Oui, mais
on les utilise beaucoup parce qu'il a un effet sédatif, il n'y a pas de dépendance et parfois il y a des moments de la vie où on en a besoin.
Ils induisent une phase de sommeil.
Ils induisent du sommeil. Et là, il y a une nouvelle catégorie de médicaments, le daridorexant, les agonistes de l'orexine.
Les agonistes, ce sont des médicaments qui font comme... agonistes qui font comme la
molécule. Donc, si je vous explique, dans la narcolepsie, c'est une maladie où on s'endort et on manque d'orexine.
C'est une molécule, c'est une hormone.
Une neurotransmetteur, oui.
Un neurotransmetteur,
oui. Et donc, on va faire le contraire, un anti-orexine, c'est pas un agoniste, c'est un antagoniste.
C'est un antagoniste,
on va faire le contraire pour induire le sommeil.
Voilà, ça vient à la place de...
Oui, et donc c'est très bien parce que c'est une autre catégorie de médicaments. Pour l'insomnie, qui est quand même un parent pauvre de la médecine, il n'y avait rien qui a été inventé, qui a relancé un peu la recherche dans l'insomnie. Donc, c'est un bon outil.
Bon, bien, très bien. Eh bien, merci à vous, docteur Abril, et merci de vos éclaircissements, de tout ce que vous faites, ainsi que de votre équipe pour les patients atteints de difficultés pour dormir. Merci à vous.
Merci.
Alors, comme vous le savez, j'aime bien, à la fin de mon émission, faire... J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Les livres que nous conseille le docteur Béatrice Abril sur le sommeil, le traitement ou sur sa prise en charge.
Ben, là, je vais vous donner un autre nom parce que j'étais à court d'idées et j'ai demandé à ma collègue, le docteur Evangelista, qui est une grosse lectrice, et j'ai dit, t'as pas un livre,
pour,
un roman. Et donc, elle m'a dit, Jonathan Coé, La maison du sommeil, c'est un roman sur le sommeil.
Alors, ne restez pas trop éveillée en lisant le roman sur le sommeil.
Voilà, elle me dit, ben celui-là, si j'ai... Donc, vous le lirez,
bon,
c'est un roman.
Sur le sommeil, bon, mais c'est pas fait. Ben, merci beaucoup à vous, merci de votre présence, de votre disponibilité et merci de tout ce que vous nous avez appris et enseigné. Merci infiniment et vous remercier de notre part toute l'équipe et le service.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel ainsi que toute l'équipe de Radio Alliance Plus. Je renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.